pas ça faire. Est-ce qu'on peut me trouver? Frédéric, où se trouve la croix? Je bénis Dieu pour vous tous et je vous salue au nom de Jésus. J'ai dit, je vous salue au nom de Jésus. Pardonnez-moi ou pardonnez l'Église, on n'a pas pu prendre des dispositions à temps. On n'a pas de climatiseur ce matin. Mais soyez-en rassurés, on a déjà alerté le service qui va s'en occuper. Et d'ici jeudi, nous serons déjà alimentés. Alléluia. Alléluia. Amen. Le titre de notre enseignement ce matin, la croix m'a révélé Jésus-Christ. La croix m'a révélé Jésus-Christ. Celui qui cherche Jésus sans la croix trouvera la croix sans Jésus. La croix sans Jésus, c'est un objet. C'est le bois. Est-ce qu'ici il y a Jésus? Et pourtant, nous prêchons la croix, mais avec beaucoup de puissance. Mais cette croix sans Jésus devient juste un objet. La croix prend toute son importance lorsque Jésus y est. C'est pourquoi cette boutade que j'ai lancée au départ, où je dis, celui qui cherche Jésus sans la croix, et c'est devenu la mode aujourd'hui, où on cherche Jésus sans la croix. On veut un Jésus qui donne des bonbons, qui donne des crèmes glacées, qui donne des biens, des voitures, des maisons. On cherche Jésus qui rend la vie facile. Mais le Jésus qui passe par la montagne, personne n'en veut. Donc, on a décidé de chercher Jésus sans la croix. À la fin, on va trouver la croix sans Jésus. À ta place, j'acclamerai le Seigneur. Dis à ton frère, si tu cherches Jésus, il faut le chercher avec la croix. Répète-lui, peut-être qu'il n'a pas bien compris, hein. Répète-lui, si tu cherches véritablement Jésus, il faut le chercher avec la croix. Tends-lui même la main, dis-lui, bonjour mon frère, parle-lui, donne-lui, tends-lui la main, salue-le, dis, cherche Jésus avec la croix. Dis-lui encore, hein, parce que si tu cherches Jésus sans la croix, tu vas trouver la croix sans Jésus. Et la croix sans Jésus n'apporte rien que la mort seulement. Alors cherche Jésus, mais avec la croix. Après, nous serons vainqueurs. Acclame Dieu si tu es vainqueur toi-même. Bien-aimés, nous sommes dans un siècle de tromperie. Je pensais que j'étais le seul à le dire. Et à voir cela, je me suis rendu compte qu'il y a une génération des prédicateurs qui montent et qui commencent à réaliser que nous sommes dans un siècle de tromperie où on fait faire des choses au Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'avait pas prévues. Mais ce n'est plus le Saint-Esprit. Ça, c'est un grand auteur, John MacArthur. Il a écrit un livre où il dénonce les mêmes choses que je dénonce ici-là. Il dit la guerre pour la vérité, le combat pour la certitude dans un siècle de tromperie. Les valeurs ont été renversées. Maintenant, aujourd'hui, les grandes valeurs chrétiennes sont maintenant l'argent, les maisons, les grosses bagnoles, les bijoux, les salaires volumineux. Les bénéfices des investissements, les gens se focalisent sur ça. Ce sont les valeurs de la chrétienté moderne que cet homme dénonce ici. Alors que la Bible nous décrit les valeurs chrétiennes étant comme la famille, les amis, la fidélité, l'honnêteté, alléluia, l'humilité, la loyauté. On ne trouve plus ces choses-là dans l'église. Maintenant, ce qui compte dans l'église, si je peux t'écraser pour devenir riche, je vais t'écraser. Ça vient d'où? Le diable fait des ravages dans la tromperie. Et les chrétiens, même intelligents, n'arrivent plus à réfléchir. Ils sont comme paralysés. Ils sont comme tétanisés. Ils sont comme envoûtés. Mais tu te dis, bah attends, ce que cet homme est en train de dire là, c'est un mensonge. Mais les gens sont dans la salle, ils acclament. Ah là là, j'ai dit, Seigneur. Et des choses qui sont... Comment peux-tu penser que dans une salle comme vous êtes là, quelqu'un, je vais me lever pour dire, ne priez plus Jésus, priez maintenant le pasteur parce que je suis devenu votre intermédiaire entre Dieu et vous. Comment? Et dans une église comme ça, le lendemain, le dimanche, il pleut. Il y a un problème. C'est vous qui avez fabriqué ces bandits. Ils sont rentrés dans la corporation, dans la vocation. C'est le cri de révolte. Un cri de révolte, il dit qu'il ne s'adresse pas aux gens du même camp que lui. Mais il s'adresse à ceux qui se sont infiltrés au milieu de nous et qui se font passer pour les saints de Dieu, mais qui en fait ne sont qu'une bande de menteurs. Et c'est là la subtilité des choses, parce que pour les découvrir, ça devient compliqué. Alors, je me suis amusé à feuilleter un peu pour vous. Je sais que vous n'avez pas toujours le temps de le faire, mais je vous conseille ce livre et lisez-le pour que quand on va enseigner ici, que vous ne soyez pas de ceux qui acceptent le mensonge. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. N'appelle pas bien mal, mal bien. Non! Il s'agit de ta vie éternelle. Il n'y en a qu'une seule. Quand tu loupes le coche, terminé, ce qui t'attend, c'est l'enfer. Tu peux avoir la plus belle église. Si elle n'est pas dans la vérité, c'est l'enfer qui t'attend, pas autre chose. Écoutez ce qu'il dit ici, dans la page 138. Il dit, les faux docteurs... apostats qui restent dans l'église et minent la vraie foi sont souvent extrêmement subtils, mais ne sont jamais inoffensifs. L'hérésie engendre toujours davantage du mal. Et plus un mensonge s'approche du cœur de l'évangile, plus il produit des fruits diaboliques. Ce n'est pas dit par le pasteur Arsène, hein, c'est dit par MacArthur. Et personne n'a encore contesté cela. Je pèse la vérité, on dit, et c'est un aigri. Je vais être aigri par rapport à quoi? Je suis dans une bonne famille, j'ai des enfants, j'ai une femme formidable, une famille formidable. Je vais être aigri par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Une voiture, j'ai aussi une voiture. Une maison, j'ai aussi une maison. Qu'est-ce que j'ai? Je vais être aigri par rapport à quoi? Je vous dis la vérité pour vous réveiller. Je n'en ai pas besoin d'être aigri par rapport à quoi? Je ne suis pas né pour n'importe quelle famille. Je n'ai jamais manqué à manger depuis mon enfance jusqu'à ce stade-ci. Je n'ai jamais manqué à manger. Donc, je vais être aigri par rapport à quoi? Mais sauf que les gens, quand on commence à les découvrir, ils deviennent dangereux. Mais moi aussi, je deviens aussi plus dangereux. Alléluia. Il dit encore ceci. L'Écriture ne limite aucunement la souveraineté de Dieu. Il donne même sur les faux docteurs et sur tout ce qu'ils font. Il établit les limites de leur apostasie et fixe les bornes de leur influence. Ça veut dire que Dieu a déjà tout limité. Ils ne pourront pas prendre les véritables. Ils prendront les faux qui se sont infiltrés au milieu de nous. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et Dieu est venu les sortir pour qu'ils soient révélés maintenant qu'ils n'étaient pas des nôtres. Si tu es des nôtres, tu seras fidèle à ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, tu pries, il n'y a pas de guérison. Tu fais ceci, il n'y a pas de délivrance. Mais parce que l'évangile a été mélangé. Ça a perdu de sa puissance et de sa force. Mais moi, Jésus m'a, plutôt la croix m'a révélé Jésus. Qui est Jésus? Si j'observais le juif avec qui je fais des cours, je l'observais. Mais la crainte qu'il a de Jésus m'étonnait. Au lieu de craindre Dieu, tel qu'il parle de Jésus, il ne parle avec respect. Tu sens qu'il y a quelque chose de, qu'il a compris que je n'ai pas compris. Je dis, Seigneur, explique-moi, qu'est-ce que cet homme a compris que moi je n'ai pas compris? Parce qu'il parle de Jésus, nous, Jésus, c'est un peu toute la routine, quoi. Oh ben Jésus, au nom de Jésus. Et même quand tu mens, tu dis le nom de Jésus. C'est une abomination. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il connaît de Jésus que je ne connais pas? La croix, je prêche la croix. Il dit, mais la croix va te servir de révélation de qui est réellement Jésus. La croix en lui-même, c'est tout un objet. Un bois. Et pourquoi le bois? On reviendra dans les enseignements prochains. Pourquoi il n'a pas fait ça en fer? Pourquoi ça devait être le bois? Ça a aussi une signification. Et je vais en venir doucement, doucement. On va d'abord introduire. Qu'est-ce qui est important? Est-ce le bois ou alors c'est celui qui est sur le bois? Mais pour comprendre cela, il faut que tu retournes. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc tout ce que Dieu fait avec nous, il commence toujours par l'Ancien Testament, nous montrer ce que c'était l'ombre. Et maintenant, nous montrer dans le Nouveau Testament la réalité de ce qui était dans l'ombre. Comprendre la croix, il faut comprendre une scène qui s'est produite au désert. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu une scène et Dieu montrait par là que tôt ou tard, je ferai quelque chose qui va ressembler à cela. Et sauf que si toi, en tant que chrétien, tu n'as pas compris cela, tu seras toujours derrière les prophètes, derrière les marabouts, derrière toutes sortes de personnes, alors que toi-même, tu as été choisi par Dieu depuis la naissance. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait déjà. Tu es le choix de Dieu. Mais tu vas vouloir devenir le choix des hommes. Bien-aimé, si tu es le choix de Dieu, est-ce que le choix des hommes a encore une importance? C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai compris, j'étais le choix de Dieu. Les hommes, je les ai multipliés par zéro. Je les respecte. Je les honore là où il faut honorer. Mais ils ne peuvent pas influencer mon ministère. Impossible. Mon ministère, il n'y a que Dieu qui doit l'influencer. Ce que je dois dire doit me venir uniquement de Dieu. Je peux t'écouter, modifier, oui, mais l'ossature, la colonne vertébrale de mon message doit être Dieu. Et Dieu, pas n'importe quel Dieu, pas le Dieu des buildings ou des grandes salles de 10 000 places. Non, le Dieu qui est venu humblement sur cette terre et qui a marché. Il n'y avait pas de Mercedes, il n'y avait même rien du tout à cette époque-là. C'est ce Dieu-là que je prêche ici. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans le désert pour que nous puissions réaliser que la croix n'a de l'importance que lorsque Christ est passé par là. Nombre, chapitre 21. Donnez-moi mon curseur, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9. Y a-t-il des étudiants dans la salle aujourd'hui? Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de prendre un cahier avec un stylo et noter. Parce que l'évangile, c'est votre vie. Alléluia. J'ai dit, c'est votre vie. Alors, ne loupe jamais l'occasion de prendre des notes et d'aller à la maison de méditer. C'est là que le changement s'opère. Ce n'est pas quand tu as écouté seulement une fois à l'église. Non. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. L'histoire ici, c'est la désobéissance du peuple. Dans le désert, Dieu se fâche, Dieu envoie une sentence, les serpents. Et les peuples commençaient à mourir comme des... Tous les jours, on enterrait des gens parce que les serpents faisaient rage. Ils sont allés voir Moïse, ils ont crié à Moïse, « Moïse, aide-nous à arrêter cette calamité. » Moïse dit, « Mais c'est vous qui provoquez Dieu. » Il dit, ok, quand vous êtes venus, vous repentir, je vais demander à Dieu. Dieu dit, maintenant, pour que je m'arrête ou j'arrête ce serpent, il faut que je pose à ce serpent une force qui soit supérieure à ce serpent-là. Il dit, maintenant, fabrique-toi un serpent brûlant. Tu le places, tu prends un bois, tu le places au-dessus, en haut. Quiconque sera mordu par le serpent, s'il a le regard sur l'autre serpent, il vivra. Allô? Allô? Il dit, quiconque sera mordu, va regarder le bois, il va faire quoi? Il va mourir. Qui va regarder par terre, il va faire quoi? Il va mourir. Qui va regarder le serpent qu'il a mordu, il va faire quoi? Il va mourir. Le seul qui avait droit à la vie, c'est celui qui regardait le serpent en opposition au serpent qu'il a mordu. C'est le symbole de la croix qui va venir et de celui qui sera posté à la croix. Quand tu regardes à tes problèmes, tu es vaincu. Quand tu regardes aux hommes, tu es vaincu. Quand tu regardes aux circonstances de ta vie, tu es vaincu. Le seul moment où tu as la victoire, c'est lorsque tu lèves les yeux et tu regardes le Christ qui est parti à la croix pour toi. Il a payé le prix. Le prix a été payé. Et la Bible dit, tu as été délivré de la puissance des ténèbres et tu as été transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le regard sur le Fils et non sur la croix. La croix, c'est l'instrument. Mais c'est celui qui est parti à la croix qui fera de toi quelqu'un d'exceptionnel. Voici où est partie l'erreur. On nous enseigne la croix à la croix, mais on ne nous enseigne pas suffisamment celui qui est passé faire cet acte-là à la croix. Ce jour-là, Dieu n'a pas demandé de regarder au bois. Il a dit de regarder au serpent d'airain. C'est tout un enseignement pour toi et moi. Pourquoi des échecs? Nous regardons trop à notre situation. Nous regardons trop aux hommes. Nous regardons trop aux circonstances de notre vie. Nous regardons trop à notre passé. Tu ne peux plus rien changer. Dieu te dit, lève les yeux et regarde à Christ ce matin. Oh, dis-moi amen. Hein? Regarde à Christ ce matin. Il était à la croix, mais c'est Christ qui était à la croix. Ce n'est pas un homme qui était à la croix. Et la croix n'est rien si Christ n'y est pas. Alors ça, c'est d'abord la première des choses qu'il faut absolument savoir. Bien-aimés, je vois des vies bloquées. Pourquoi? Parce que les gens regardent aux hommes. Je vois des vies bloquées parce que les gens font plus confiance aux hommes qu'à Christ. Je vois des vies bloquées parce que les gens ne réalisent pas qu'ils ont été mal enseignés. On vous a appris à faire confiance aux prophètes. Au bishop, c'est beau. Mais la Bible dit, honorez-les. Il n'a pas dit, faites leur confiance. Non, honorez-les. Double honneur, donnez double honneur à ces hommes-là. Mais ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mais au lieu de ça, on a fait le contraire. On a fait plus confiance aux hommes et on a commencé à honorer Dieu. L'inversion des valeurs. Le diable passe par là et il nous trouble sérieusement. Je voudrais ce matin ramener la chose à sa juste place. Te dire, bien-aimé, Dieu ne t'a pas demandé de me faire confiance. Dieu t'a demandé de m'honorer doublement. Mais la confiance, c'est le même mot en grec qui signifie foi. Si tu as confiance en moi, tu as foi en moi. J'ai fait quoi pour toi? J'étais à la croix pour toi? Je peux changer ta vie? Non, dites-moi oui, puisque vous faites comme ça aussi. Tu mets ta confiance dans un homme. Non, honore l'homme doublement. Place ta confiance dans le Seigneur. Je vous enseigne ici Jésus. Placez votre confiance en Jésus. Il y en a qui me dit, mais Jésus, son prénom, et Christ, c'est le nom de famille. Je dis, c'est cool, c'est écrit où? Vous savez, on enseigne tout et n'importe quoi. Et les gens croient dans ces bêtises-là. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de lire. Lisez, bien-aimés, lisez. Lorsque Paul rencontre Jésus en chemin, sur le chemin de Damas, il ne rencontre pas la croix, il rencontre Jésus. Ah, dis-moi amen. Mais c'est Paul qui a parlé de la croix, qui a révélé des choses qui sont à la croix. Mais il a rencontré qui lui-même? Jésus. Vous voulez rencontrer la croix sans rencontrer Jésus. Et vous avez un problème. Hein. Tu ne peux pas rencontrer la croix. Tu ne peux pas prendre la croix sans rencontrer Jésus. Rencontre d'abord Jésus. Ça commence par là. Paul a d'abord rencontré Jésus et il a pris sa croix. Nous faisons le contraire. Nous voulons prendre la croix, mais tu prendrais la croix sans Jésus, bien-aimé. Créez les conditions pour que vous puissiez vivre parfaitement l'évangile. Sinon, on peut rester ici dans 20 ans, 30 ans. Tout ce qu'on vous enseigne là, on vous donne des mirages là, mais vous allez vous rendre compte que plus tu t'approches, le mirage disparaît. Hein. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Je connais une personne à qui on a dit, tu feras des enfants, ton père viendra, ta mère fera ceci. Hey. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans. Elle vit dans ce mensonge-là. Pourquoi? Le pasteur n'a plus de solution. Mais c'est normal qu'il n'ait plus de solution. Dieu lui montre que ce n'est pas lui qui est le problème. C'est toi qui crois en lui qui est le problème. Tourne le regard vers le Seigneur. C'est lui seul qui est la solution de ta vie. Il va te donner la solution et tu vas sortir de là vainqueur. Et c'est comme si les chrétiens ne veulent plus être des vainqueurs, ils veulent être des vaincus permanents. Non! Tu dois sortir de cette erreur-là. Le bois était là, mais ce qui était au bout du bois, c'était le serpent d'airain. Et c'est le serpent d'airain que les hommes ont regardé. Israël a regardé dans le désert, et même quand il y avait la morsure, il ne mourait pas à cause du regard sur le serpent. Quiconque est sorcier dans ta famille ne peut pas te toucher lorsque tu as les yeux tournés vers le Seigneur Christ. Mais aujourd'hui, nous avons plus peur des sorciers que de Jésus-Christ. Alors que Dieu t'a dit, regarde simplement à la croix. Qui est à la croix? Regarde à la croix parce qu'en regardant la croix, tu regardes qui le Christ et son sacrifice. Il dit, rien ne pourra t'arriver. Donc, le problème aujourd'hui des chrétiens commence à ce moment-là. Alors, Paul va nous servir de modèle. Paul qui a prêché la croix, qui a dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour toi et moi. Pourquoi cette prédication est une puissance? Parce que dans cette prédication, l'élément central, c'est Jésus-Christ. Pas autre chose. Pas le bout de bois, non. Paul va faire quoi? Regardez, Paul est un bandit. Paul est un... comment je peux dire ça? Paul est un... persécuteur de l'Église. Paul est un homme attaché à l'ancienne alliance. Juif pratiquant, sorti d'une haute école qu'on appelle Caïphe. Paul vient sur le chemin de Damas, toujours dans la direction d'aller persécuter l'Église. Il va rencontrer qui? Le Seigneur de gloire. Écoutez ce qu'il va dire. Bien-aimé, si ça peut vous édifier ce matin, je serai très heureux. C'est là que je veux en arriver. Que la vie de Paul, aujourd'hui même, les gens commencent même à contester Paul. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce siècle de tromperie. Pendant toute leur vie, ils ont prêché Paul. Ils ont soutenu Paul et aujourd'hui, parce qu'ils ont signé des alliances contre nature, ils veulent maintenant contester Paul. Et c'est de ça qu'il parle ici. Si vous êtes curieux pour votre vie, allez acheter ce livre. Lisez-le vous-même. Comme ça, lorsque je dirai des choses ici-là, « Ah non, les pasteurs parlent du mal déjà. » Donc, pour ma vie à moi, je vais laisser que le nom de Christ soit saboté et je vais faire amitié avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. Non, je préfère que tu me haïsses. C'est ton problème. Toi et moi, nous irons au jugement. Alléluia. Mais moi, je serai justifié et toi, tu seras condamné. Il faut faire des choix dans la vie. Et Paul a fait un choix. Allons lire Galates chapitre 1er, versets 15 à 19. Galates chapitre 1er, versets 15 à 19. Dis à ton frère, on va quelque part. Dis, sois patient. On est en train de mettre les bases. Alléluia. Nous avons déjà vu que Dieu n'a pas demandé aux gens dans nombre là de regarder au bois. Elle a demandé de regarder à celui qui était attaché au bout du bois, qui est le serpent d'airain. On y va. Dans Galates chapitre 1er, verset 15 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, Paul, Pierre plutôt, et je demeurai 15 jours chez lui, puis je vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit, lorsque il a plu à Dieu de lui révéler qui est Jésus et qui est-il Paul, c'était une révolution, lui. Une révolution. Il y a toujours un temps où tu ne connais pas ce que tu es. Ah, Paul, quand il persécutait, il ne savait pas qui il était. Qui était Jésus? C'est le cas de beaucoup de chrétiens. Tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne sais pas qui est Jésus. C'est pourquoi tu fais confiance aux hommes. Au lieu de faire confiance à Dieu. Et la Bible dit, malheur à qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Malheur. Tu es déjà sous une malédiction en mettant ta confiance dans l'homme. À dire à l'homme, garde ta place. Laisse la place au Seigneur, au Seigneur. Mais ce n'est pas l'homme. L'homme a toujours envie de dominer. Il va te dominer, il va t'écraser. C'est parce que je ne domine pas. Et j'ai même réalisé, dans cet enseignement que je préparais, il est difficile de devenir méchant. J'ai dit, il est difficile de devenir méchant. En fait, la méchanceté est innée. On est méchant ou on est bon. Tu ne peux pas changer au milieu pour devenir méchant. Si tu es bon jusqu'à la fin de ta vie, c'est ça. Et quand tu vas essayer d'être méchant, tu verras que c'est compliqué d'être méchant. Donc quand tu vois quelqu'un méchant, c'est sa nature. Il a grandi, il est né comme ça, c'est de naissance. Il n'a pas adopté ça, non. Tu vois quelqu'un aimer les fétiches, les marabouts, il est né dans cette affaire-là. Il ne peut pas changer. Paul ici est en train de donner une grande révélation. Paul est en train de te dire aussi à toi. Tu as été mis à part par Dieu. Je peux comprendre que tu ne saches pas encore pourquoi. Mais tu ne peux pas douter que tu as été mis à part. Si tu es là ce matin, ce n'est pas certainement un fruit du hasard. Même si tu ne sais pas encore, ce n'est pas un problème. Je te dirais qu'il y a un processus. Tu ne le sais pas. Paul aussi a subi un processus. Et chez Paul, c'était plus grave. Il tapait, il persécutait, il tuait pour Dieu, pensant qu'il tuait pour Dieu. Jusqu'à ce qu'il rencontre Yeshua HaMashiach. Il se rend compte qu'il ne tuait pas pour Dieu. Et comment a-t-il rencontré le Seigneur? Sur un bois? Sur la croix? Non. Mais il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur s'est révélé à lui comme étant l'Église. Oh, dis-moi amen. Ce que tu persécutes là, c'est moi que tu persécutes. Toute personne qui te persécute, ils ne se rendent pas compte qu'ils persécutent Jésus. C'est parce que tu ne parles pas. Tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, regarde comment qu'on me persécute. Un jour, tu verras, il te dira, bien-aimé, c'est pas toi qu'on persécute, mais c'est moi qu'on persécute au travers de toi. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu crois que Dieu est persécuté à cause de toi? Ben oui. Et ce sont ces vérités-là qui ont révolutionné ma vie, qui m'ont donné de comprendre que l'homme n'est que mensonge. je préfère demeurer avec Dieu. Paul dit, quand j'ai eu la révélation de qui était Jésus, j'ai reçu la mission d'aller l'annoncer à tout le monde. Je n'ai pas consulté la chair, moins encore le sang. Et c'est l'erreur que nous commettons tout le temps. Dieu te donne une révélation, tu vas demander à Tartampion, qui est ton parent, ta mère, ton père, tu as déjà échoué. La révélation, c'est à toi que Dieu l'a donnée. Gère ça avec Dieu. Regardez combien acclament là. Il n'y a que deux qui acclament. On est famille aveuglement. Alléluia. Soyez famille, mais avec la révélation. La révélation, c'est toi qui l'as. Bien-aimé, Joseph avait la révélation. Il savait qu'il sera le chef de sa famille. Il a dit à la famille, « Moi, je serai votre chef. » C'est peut-être une erreur, c'est vrai. Mais Dieu nous montre par là que si Dieu a dit, tu le seras. Même si les gens te mettent en prison, même si les gens te vendent, même si les gens te chassent, même si les gens te critiquent, même si les gens murmurent contre toi, Dieu a dit et la chose s'accomplira. Ah, dis-moi, amen. Dans ta vie, les choses vont s'accomplir, bien-aimé. Je dis, dans ta vie, les choses vont s'accomplir, bien-aimé. Quels que soient les murmures, quelles que soient les médisances, quelles que soient les critiques, quels que soient les mépris des gens, les rejets, la chose que Dieu a dit s'accomplira. Je dis, la chose que Dieu a dit s'accomplira. C'est à toi de prendre conscience que j'ai reçu la révélation de ma vie. Je n'ai pas écouté le sang ni la chair. Amen. Seigneur, chacun de nous ici a été appelé par Dieu avant sa naissance. Lorsque Dieu était assis, il te tissait. Papa Dido, il savait qu'un jour, tu seras dans sa maison pour le servir. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas maman qui t'a amené à Dieu. Même si elle t'a amené à Dieu, elle n'a été qu'un instrument de Dieu pour t'amener dans la maison de ton père. C'est comme ça qu'il faut voir. Le pasteur n'est rien. Ce que le pasteur fait, il ne fait que manifester ce que Dieu avait déjà programmé depuis longtemps des temps anciens. Ce n'est pas le pasteur, non. C'est Dieu qui lui dit, fais ceci pour manifester ce que j'ai déjà mis en elle. Ce que j'ai déjà mis en lui. Toi, tu ne fais que manifester. L'erreur que tu commets, c'est l'erreur que Paul n'a pas commise. Paul n'a pas consulté la chair. Il n'a pas consulté le sang. En fait, pourquoi nous consultons la chair et le sang? Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu ne consulte plus la chair et le sang. Dieu a parlé, datit, terminé. Je m'en vais, je marche. Si tu viens me demander à moi, c'est sûr et certain que je te donnerai un conseil qui peut contrarier le dessein de Dieu pour ta vie. Ça veut dire que tu fais de moi le gestionnaire de ta destinée. Dieu ne t'a pas demandé cela. Dieu ne t'a pas demandé cela. Ça, ce sont des pensées humaines. Dieu t'a dit quelque chose. Ne consulte pas la chair, ne consulte pas le sang. Et c'est vraiment là où il y a des problèmes. Toi aussi, tu as été mis à part. Jésus connaissait, en fait, il a donné même à Paul cette sagesse, cette intelligence de ne jamais se confier à la chair et au sang. Jésus connaissait le pouvoir de la chair et du sang. Il connaissait comment que ces deux éléments peuvent mettre à mal ta destinée. Comment? Il a dit Jésus. Lorsqu'il est devant Pierre, il dit à Pierre, qui dit-on que je suis? Vous savez, les gens aiment les murmures. Hein? C'est ce que le pasteur a dit. Ou il n'a pas dit. C'est ce qu'il va aller se préciser de dire. Mais je pense que l'idiot, ce n'est pas celui qui va parler. L'idiot, c'est celui qui va écouter. Ah, écoutez-moi bien. Moi, je peux venir te rapporter des choses. Allez voir la Bible, qu'est-ce que Dieu dit des rapporteurs? Je ne parle pas, ce n'est pas le but de mon enseignement, mais laissez-moi voir la Bible, demander qu'est-ce que Dieu dit des rapporteurs. C'est bien, Dieu te pose la question, que dit-on que je suis? Tout le monde, tu es ceci, tu es, ah, Pierre, Dieu, si tu es celui. Ok. Jésus, en homme intelligent, il dit, c'est très bien, ça c'est une part des choses. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Ça veut dire que Si les gens qui sont loin de moi pensent de moi une chose, mais vous qui êtes près de moi, vous pensez quoi de moi? Bien-aimé, c'est la question qu'il faut poser au rapporteur. Le pasteur a dit ceci, mais toi, qu'as-tu dit? Ah, acclame Dieu le Seigneur. On tombe facilement dans ce piège-là. Et on peut te monter toutes sortes de bêtises parce qu'on veut, en fait, le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est ta destinée qu'on veut nuire. Parce que la personne sait que si tu te mets avec le pasteur, ça peut changer ta vie. Il vient quoi? Te séparer, t'éloigner au maximum du pasteur. Il joue le jeu de qui? Si tu grattes, Satan est à l'intérieur. Si tu vas chez cette personne-là, tu verras des statues de Vierge Marie. Hein, qui sont en fait des statues de la Reine du Ciel. Pratiquant. Un pratiquant vient te parler. Un pratiquant peut rendre service à Dieu? Quelqu'un qui prie Maman Marie va rendre service à Dieu? Des fois, je vois vos erreurs, je me dis, mais Seigneur, c'est terrible, hein, quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes dans un méchant problème parce que vous êtes à la merci des enseignements psychologiques qu'on vous donne, qui n'ont aucune vie. C'est beau à écouter, c'est tellement charmant, mais la vie à l'intérieur est égale à zéro. Cherche la vérité et Dieu te dira ce qu'il y a. Quand Jésus pose la question à Pierre, qui dites-vous maintenant, vous qui êtes proche de moi, qui dites-vous que je suis? Ils ont commencé à donner des réponses. Et il a attendu une réponse. Et Pierre va ouvrir la bouche, écoutez-moi très bien, pour dire, tu es le fils de Dieu vivant et le Messie d'Israël. Jésus se retourne, regarde Pierre. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La chair peut donner des révélations. Le sang peut donner des révélations. Mais les révélations de la chair ne dépendent que de la chair et du sang. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je t'ai démontré comment, pourquoi. Jésus lui dit, tu étais Céphas, tu étais Simon, ton nom sera maintenant hein, Pierre. Pourquoi? La révélation que tu as reçue montre que Dieu est avec toi et tu es un de mes enfants. Alléluia. Mais avez-vous remarqué que la minute d'après, Jésus est en train de parler, de commenter, le diable va se manifester dans Pierre pour s'opposer au Christ. Jésus concerne et discerne, il dit, arrière de moi, Satan. Attention, tu peux avoir la révélation au jeu de Dieu. Tu vas encore dire que j'ai vu beaucoup de femmes comme ça. Dieu lui a donné la révélation, c'est ça ton mari. Il dit, j'attends encore la révélation, la confirmation. Et vous là, vous avez des problèmes. Hein? Quelle confirmation? Dieu t'a déjà parlé. Engage-toi. Ah non, je vois qu'il a des défauts. Est-ce que Dieu n'a pas vu des défauts là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici? Vous qui aimez regarder les défauts des hommes là, ou des femmes là, si tu t'as montré le chemin, vas-y. Oh non, j'hésite. Hésite. Mais tu vas rester célibataire comme ça, en hésitant. Dieu ne répète pas. Hein. Il t'a montré le chemin, il t'a donné signe. Si toi tu ne comprends pas, tu ne crois pas, bien aimé, il y a de fortes chances qu'avec le temps, tu ailles choisir là où c'est mauvais. Et tu vas payer le prix. Mais Dieu me parlait. Ah bon, Dieu te parlait. Hein. Tu avais écouté? Donc, quand quelqu'un te rapporte des choses, pose la question, et toi, qu'as-tu dit? Parce que le jour où tu vas chez le pasteur pour demander, mais pasteur, qu'est-ce qu'il avait dit lui aussi? Ah! C'est là que tu verras, mon Dieu, j'ai fait quoi? Erreur grave. Mais tu as perdu des années. Et tu as perdu ton temps. Pourquoi? Parce que pour que le pasteur parle, il faut que la personne parle, non? Le pasteur peut rester comme ça, seul, et puis commencer à déblater, blablabla. Il faut être fou. Quand tu n'es pas fou, c'est qu'il y a eu échange. Mais qu'as-tu dit? Et c'est ça le vrai problème des chrétiens. Mais Paul a compris le côté nocif de la chair et du sang. Il a dit que dès qu'il a eu la révélation, aujourd'hui même maintenant, si tu es pasteur, tu es installé ici, là, on te demande d'aller voir un comité des sages, je ne sais pas, institué par qui, C'est des choses que je vis ou que je vois, je ne comprends plus rien. Mais Paul n'est pas allé voir un conseil quelque part. Paul n'est pas allé voir, consulter la chair ni le sang. Il est parti directement se mettre à la disposition du Seigneur. Et 3 ans seulement après, il revient se mettre à la disposition des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant blindé, il peut faire face aux mensonges. Et il fera face au mensonge de Pierre, qui a joué à l'hypocrisie. Quand il voit les fidèles, il s'éclipse. Et quand les juifs sont partis, il repart. Paul l'a rattrapé sévèrement. Pourquoi ? Parce que Paul était déjà préparé au ministère. Aujourd'hui, des fois je suis dépassé par cette ignorance dans laquelle nous sommes plongés. La chair et le sang ont la capacité de tout faire ta destinée. Dieu t'a donné des images d'une grande dame, d'un grand monsieur. La chair et le sang va te dire, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Demain, je ne pars pas à l'église. Après demain, je ne pars pas à l'église. Après, je m'en vais en retard, un peu de retard. En fait, il est en train de créer les schémas pour t'éloigner de plus en plus à la révélation de qui tu es pour que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, Jésus a dit plutôt de Jean-Baptiste, depuis la mort de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu difficile d'accès. Il n'y a que les violents qui vont s'en emparer. On ne parle pas d'une violence ici physique. On parle des gens qui se disent, j'ai un objectif à atteindre. Je dois être à l'église de façon permanente. Je ne dois jamais couper ma relation avec Dieu. L'église n'a rien à voir avec une communauté religieuse. Rien. Nous ne sommes pas dans une religion. Et Dieu n'a jamais créé une religion. Ce sont les hommes qui ont créé des religions. Dieu demande une relation personnelle avec toi. Dieu demande une relation d'intimité avec toi. Dieu veut te confier des choses, il veut aussi lui confier des choses. Mais pour que Dieu te confie des choses, il faut qu'il soit sûr que tu peux les garder. Il faut qu'il soit sûr que tu lui fais confiance. Bien-aimé, je suis là. Je ne suis pas devenu pasteur par programmation. Depuis ma naissance, ce n'est pas vrai. Moi, je suis dans le monde, j'aimais le monde. J'ai fait des bêtises dans le monde. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me suis entièrement donné. Moi, je partais à l'église comme brebis. Je n'avais jamais l'ambition, jusqu'en 2003, je n'avais jamais l'ambition de devenir pasteur, jamais. Ni dans mon esprit, ni, rien ne me précisait à ça. Mais je sais qu'on avait profité sur moi, en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai pris ça à la légère. J'ai dit, non, mais je ne connais pas la Bible, je veux devenir pasteur comment? Et c'est comme ça que j'ai banalisé la chose. Donc, je suis bien placé pour te dire, bien aimé, ta destinée est entre les mains du Seigneur. Il te faut une relation d'intimité avec lui pour qu'il te révèle. Et quand il va te révéler, la révélation va faire que personne ne peut te bouger. C'est pourquoi je vous ai dit ici un jour, prenez l'exemple de Maman Solange. Elle n'est pas venue à l'église parce que quelqu'un l'a évangélisée. C'est Dieu qui l'a demandé, elle a demandé à Dieu, où veux-tu que j'aille te servir? Elle pouvait aller ailleurs. Elle avait des parents ici qui venaient même la chercher devant moi. Elle a dit, c'est par révélation que Dieu m'a conduit à EEE. Tant que l'église ne ferme pas, moi je ne bouge pas. Même si nous restons 2, on va rester 2. Amen. Nombreux sont venus. L'ont incité à partir. Ils sont dehors. Elle est encore dedans. Bien-aimé, quand tu as la révélation, on ne te bouge pas. Quand tu as la révélation, on ne peut pas te bouger. On bouge. Ceux qui n'ont pas de révélation, ils sont comme des moutons. Ils n'ont jamais été des brebis, de toute façon. Ce sont les moutons. Les moutons, c'est vaca, vaca. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Ça, c'est mouton. Mais brebis, La brebis n'entend la voix que de son Dieu. C'est tout. Et il marche avec son Dieu. Soyez des brebis ce matin. J'ai dit, soyons des brebis ce matin. Sortons de la classe des moutons. Les moutons vont au gré du vent. Ah, j'ai appris là-bas que là-bas la musique est superbe. Ah, j'ai appris là-bas que pasteur c'est une star. La chose spirituelle qui concerne ta vie éternelle, tu t'amuses avec ça comme un ballon de football. Même le ballon que je joue avec mon fils s'amusait encore plus de valeur que toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'absence de révélation crée des problèmes. Paul est en face des apôtres qui font déjà du succès. Il reçoit la révélation, il ne va pas les consulter. Non! La révélation, tu ne consultes personne. Tu es en relation avec Dieu, uniquement Dieu. Résultat, il s'en va pour se mettre à l'instruction du Seigneur. Et Dieu va l'enseigner pendant 3 ans. Il va lui donner des révélations puissantes sur la croix. L'œuvre qui a été accomplie. Et lorsque Paul revient, il vient pour voir qu'est-ce que les autres enseignent. Et qu'est-ce que moi j'enseigne. Quand Jacques l'a écouté, le frère de Jésus l'a écouté, il a dit non, baissez la garde. Cet homme est un saint choisi par Dieu. Ce que tu confesses, ce que tu enseignes, les gens peuvent savoir si tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Moi, j'écoute des enseignements hein, maintenant. J'écoute beaucoup d'orateurs. Il y en a qui ne me bougeront jamais. Parce que c'est tellement vide. Il n'y a rien. Tu sens qu'il a pris 2-3 versets, et puis il vient, il fait du spectacle. Il n'y a rien. Je veux un enseignement qui m'édifie. C'est pourquoi je suis passionné par les parachas. Parce que tu entends des choses spirituelles qui viennent changer ta vie. Qui viennent booster ta foi. Mais tu n'entends pas des conneries. J'ai porté 10 000 paires de chaussures. Mais qu'est-ce que l'église a foutre avec ça? Si tu as 50 costumes, c'est ton problème. Et c'est ça des choses que tu enseignes aux enfants de Dieu. Parle de toi, de ton mariage, on s'en fout. Parle-nous de la croix, parle-nous de Jésus. Dis-moi amen, hein? Sinon, nous ne sommes pas dans la même direction. Alléluia. La scène de Jésus avec Pierre, tu pourras trouver ça dans Matthieu chapitre 16. Ce n'est pas le but de mon enseignement. Donc, on voit comment Paul revient et Paul s'occupe maintenant des choses du Seigneur. Donc, il a fait fi à la chair. Il a fait. En fait, il dit que quand il dit que je n'ai consulté ni la chair ni le sang, ça veut dire qu'il n'a pas consulté les apôtres qui étaient apôtres avant lui. Il n'a consulté personne. Il a eu la révélation, il est parti directement se mettre à la disposition du Seigneur. Lorsque tu reçois la révélation, à qui te confies-tu? C'est lui à qui tu te confies là. Peut soit te conduire vers ta destinée, soit te détruire ta destinée. Tu ne connais pas son cœur. Les frères de Joseph ont essayé de détruire la destinée de Joseph. N'eût été la main de Dieu, Joseph aurait passé. Alors, tu serais mort sans même avoir accompli la destinée. À qui te confies-tu? Le véritable accélérateur de ta destinée s'appelle Yeshua. C'est à lui qu'il faut se confier. Alléluia. La chair, c'est quoi la chair en fait? Parce que la chair a beaucoup de dimensions dans la parole de Dieu. Je voudrais juste te donner une petite définition de la chair. La chair, c'est la nature humaine. Cette nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine, cette nature rend l'homme prompt au péché. Et surtout, cette nature pousse l'homme à s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu. Dieu donne une instruction. Lui, il va donner une contre-instruction pour s'opposer à Dieu. Et quand tu vois une personne comme ça, devant toi, une fois, il faut l'effacer radicalement de ta vie. Si vraiment tu veux aller loin, si tu es un homme de destinée, tu dois le chasser de ta vie. Parce que sinon, il va pourrir ta vie. Et pourquoi alors? Paul a eu la capacité de se passer de la chair et du sang. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a boosté la foi de Paul? Parce que Paul a rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il n'a pas rencontré la croix sur le chemin. Il a rencontré Jésus-Christ. Comment une personne qui rencontre le Seigneur, sa vie change? Et nous avons prétendu avoir rencontré le Seigneur, mais nos vies ne changent pas. Il y a problème. Allô? Allô? Dites-moi amen, hein? Paul a rencontré Jésus. Il était pharisien. Il est sorti de cette secte des pharisiens. Il est devenu un intime de Dieu. Il a oublié toute la connaissance qu'il avait de la loi. Il a oublié. Plus tu avances dans le Seigneur, plus tu es en communion avec Dieu, les lois de Dieu ne t'affectent plus. Il y a eu 613 lois. Aucun humain ne pouvait l'accomplir. David est venu, il a compris le secret, il dit, ah, or Dieu est comme ça, oui. Quand il est rentré dans l'intimité avec Dieu, il a réduit ces lois-là, 611 là, 613, il a fait juste 11 lois. Hein? Oh, ma fille, ça va venir, tu vas être béni ces temps-ci avec cet enseignement sur la croix, tu vas être béni. C'est pourquoi une relation avec Dieu, elle est importante. De 613 lois, David en a réduit à 11 seulement. Un des psaumes que tu as là, je ne te dirai pas le psaume, parce qu'il ne faut pas que je dévance mon enseignement, je ne te dirai pas le psaume. Mais tu vas être béni. Ah, je n'ai pas entendu amen. Hein? Ah, donc, vous n'avez pas les bénédictions. Hein? Bon, si tu veux accomplir les 613 lois, va accomplir. Moi, je m'arrête là. Si tu m'acclames pas fort, je ne peux pas continuer encore. Je commence à flatter les acclamations alors que c'est mon droit à moi. Hein? Je commence à flatter les acclamations alors que c'est mon droit à moi. Acclame encore le Seigneur, maman. David, en connaissant Dieu, en approfondissant la relation avec Dieu, il a réduit maintenant les 613 lois en 11 simples lois. Bien-aimé, toute une révolution. Paul est venu, Paul dit, ah, c'est ça la chose. Paul est venu, il a encore éliminé les 11 lois qui restaient, il a gardé seulement une seule loi. Oh, dis-moi amen, hein? Tu vas être béni ces temps-ci. Et à la fin, il y a un autre qui est venu, je ne sais pas de qui il s'agit. Il a dit, il n'y a même pas besoin de loi. Rentre seulement en communion avec Dieu. Les lois tombent. C'est ça ce que tu es. Et tant que tu ne connais pas de qui il s'agit, tu ne pourras jamais aller loin. Paul a su qui était Jésus. Les chrétiens connaissent Jésus, mais le connaissent de façon littéraire. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien. Et c'est pourquoi on croupit dans la misère. Dieu ne t'a jamais appelé à la misère. Il a dit, sois prospère comme tu prospères, comme prospère l'état de ton. Mais c'est terrible. Nous, on veut glorifier la pauvreté. Dieu n'a jamais glorifié la pauvreté. Et je ne vous dis pas aussi que nous sommes ici en train de prêcher la doctrine de la prospérité. Je ne suis pas dans cette doctrine-là. Je dis seulement que Dieu te connaît, Dieu me connaît. Le minimum, je l'aurai au moins pour vivre tranquillement. Parce que sinon, je n'ai pas de paix. Il a dit, je ne vous ai pas... Jérémie, chapitre... J'ai pour vous des projets. Des projets de quoi? Non, dites-moi, des projets de quoi? Si ton courant n'est pas payé à la maison, tu es dans le bonheur? Tu n'as pas payé Hydro-Québec, tu es dans le bonheur? Tu n'as pas payé Vidéotron, tu es dans le bonheur? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Donc, comme les chrétiens ont refusé la vérité, eh bien, le mensonge continue à nous guider. Dieu a dit, il y a même des versets qui me disent que projet de paix et de bonheur. Mais quelqu'un qui n'a pas à manger, il est en paix. Essaie un peu de laisser 3 jours sans manger. Tu vois, être en colère d'une façon permanente. Mais attention, vide tout ton compte en banque, sois pauvre là. Reste 3 jours, tu vas te rendre compte. Même ton meilleur ami, tu vas le chasser. Mais qu'est-ce qui amène les gens à la sorcellerie? C'est la pauvreté. Plus personne ne veut être pauvre. Les pauvres sont méchants. Les pauvres sont très méchants. C'est pourquoi Dieu te dit, il y a moyen de bannir cette malédiction. Comment? Rentre en intimité avec Dieu. Je vais t'enseigner ces lois-là. Comment que les lois de Dieu n'ont plus aucun effet sur une personne qui est en intimité avec Dieu? Aucun effet. Mais tant que tu ne le sais pas, et Paul le savait. Pourquoi? Parce que Paul savait. Il a rencontré un qu'on appelle Yeshua. Et quand il a rencontré Yeshua, la vie de Paul a totalement changé. Pourquoi? Parce que Paul a rencontré un homme exceptionnel. a rencontré un homme exceptionnel. Et c'est pourquoi, tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu auras peur des hommes, peur des sorciers, peur du lendemain, peur de tout, toutes sortes de peurs bizarres. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est le Seigneur que tu sers. Et c'est une tristesse, une abomination même, que de vivre dans ce monde-ci avec des stress inutiles, alors que Dieu a pour toi des plans merveilleux. Il a dit, j'ai pour vous des projets de paix, de bonheur, pour que vous ayez de l'espérance. Mais on voit chez les chrétiens, il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas encore rencontré le véritable Yeshua. Qui est Jésus? Si je te pose la question aujourd'hui, tu me dis quoi? Qui est Jésus? Ah, il est Dieu, c'est tout. Mais est-ce que tu as même compris ce que tu dis? Qui est Jésus? On va faire deux lectures. Et je vais aller en profondeur. Jean chapitre 1, verset 1. Et Jean chapitre 1, verset 14. Mettez-moi des marqueurs sur votre Bible, sur les deux versets-là. C'est toute une révolution que tu vas vivre ce matin, au travers de ces deux versets. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était... Bien-aimé, il y a trois phrases là. Il ne faut pas lire ça trop vite. Hein. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur pour toi-même. S'il n'y a pas quelqu'un pour contester, on va continuer. Mais si tu veux contester, c'est le temps de contester. Si tu contestes, tu contestes la Bible, hein, pas moi. Moi aussi, je suis comme toi, j'ai médité la parole. La parole, au commencement, était quoi? Hein? Donc, avant que toute chose soit faite, qu'est-ce qui était là-bas au départ? Avant la création du monde, hein, qui était là? Qu'est-ce qui était là? Oh, je veux que tu me répètes fort. Avant la construction de toutes les galaxies, qui était là? Avant la création de toutes les constellations, qui était là? Avant la création de ton monde, qui était là? Et la parole était qui? Était avec qui? Si tu es sûr, acclame encore Dieu. Ce matin, je voudrais que tu partes sur la base des certitudes. Pas de haut, on a dit, on a fait. Non, certitude. Et ce sont ces choses-là que moi, votre père, j'ai tellement bu ça que quand tu veux faire ton petit malin devant moi, je te regarde là. Je mesure, je pèse, là je dis zéro. Je ne m'inquiète pas, je dors, je me réveille. Va faire tes trucs, va faire tes fétiches. On m'a promis ici la mort plus d'une fois. On a promis la destruction de cette église plus d'une fois. Mais moi je les regarde, je dis, c'est parce que les gens sont ignorants. S'ils savaient à qui appartient cette église là, ils n'auraient même pas de menaces à faire. Faites des menaces, c'est tant pis pour vous, vous allez vous détruire vous-même. Je ne suis pas de ceux qui lâchent en chemin. Je suis de ceux qui vont jusqu'au bout. Tant que j'ai le souffle de vie, je serai encore debout ici en train de s'enlier, Seigneur. Dis-moi amen, hein? Dis-moi amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Allons maintenant dans... On dit ici, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien. Allons maintenant lire le verset 14. Lisez fort vous tous, ensemble avec moi. La parole a été faite quoi? Elle habitait où? Dans quelle position? Ah, dis-moi amen. Hein? Acclame Dieu pour toi-même. Il dit ici, hein, la parole a été faite chair. Dieu s'est assis. Il a commencé à construire la parole, à tisser la parole. Toutefois qu'il tissait, il libérait une parole de Dieu. Il tissait, il libérait une parole de Dieu. Mais Marie qui portait l'enfant, ne savait pas quelle était la profondeur de cet enfant. On lui a seulement dit, tu lui donneras tel nom. Et Dieu qui t'a tissé, depuis le sein de ta mère, Dieu aussi a tissé son enfant depuis le sein de Marie. Il s'est assis. Il a commencé à tisser chaque élément de la vie de Christ. Chaque élément tissé. Bien-aimé, arrêtez-vous et réfléchissez. Il y a un homme qu'on appelle Siméon. Siméon, Dieu lui dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Tu ne mourras pas. Ça veut dire que cet enfant qui vient là, c'est tout un cataclysme, bien-aimé. Mais les humains l'ont rendu comme une chose inutile. Mais nous sommes dans la confusion. Et le diable règne dans nos vies. Pas possible. On voit des serviteurs commencer à faire à se sauver avec le diable. Parce que on ne pense plus que Dieu est puissant. Mais c'est une grave erreur. Siméon partait à l'église tous les jours. Quand il y a une promesse de Dieu, tu vas à l'église tous les jours. Siméon, le matin, il est à la synagogue. Le soir, il est à la synagogue. Le matin, il est à la synagogue. Le soir, parce qu'il sait que Dieu lui a fait une promesse. Il dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Saint d'Israël, celui qui vient pour apporter le salut de l'humanité. Bien-aimé. C'est lorsque je fais ces parallèles-là, je dis, mais Seigneur, est-ce que je connais ton fils là? Apprends-moi à le connaître profondément pour que je sois en paix. Simon va à l'église tous les jours, puis tu vas à la synagogue, tous les jours, tous les jours. Mais un jour, il arrive à la synagogue. Avant d'arriver à la synagogue, le Saint-Esprit va le révéler, Simon, lève-toi là où tu es là. Ce que je t'avais dit comme promesse, il y a peut-être 50 ans, 20 ans, tu as été fidèle, tu vas voir et après je te prends avec moi, Simon. Simon va à la synagogue, il arrive à la synagogue, il voit un enfant qu'on vient consacrer au Seigneur. Quand l'enfant a pleuré, Dieu a dit à Simon, voici le salut d'Israël. Il est né. Siméon a levé les mains au ciel, il a pleuré. Il a dit, merci Seigneur, parce que ta promesse est accomplie. Mes yeux ont vu le salut de l'humanité. Mes yeux ont vu le salut des chrétiens. Mes yeux ont vu le salut de tes maladies. Mes yeux ont vu le salut de ta richesse. Mes yeux ont vu le salut de ta pauvreté. Donc tout ce que Siméon voyait là, c'est toi qui es là. Tu as vu ce que Dieu a promis. Tu n'as pas encore reçu, mais tu as vu. Simon dit, maintenant ton serviteur peut s'en aller dans la paix. Ah, dis-moi amen. Dis-moi amen. Ce matin, je te proclame la paix du Seigneur à l'intérieur de toi. Sekakuriabase. Oh yababase. Là, Simon voit la naissance d'un élément qu'on appelle la parole. Et la parole ici a un nom particulier. On a vu au verset 1, Dieu était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On vient voir encore dans verset 14, et la parole s'est faite chair. En grec, la parole ici veut dire le logos. Dis après moi, logos. Bien-aimé, ce mot-là, nous l'avons tellement galvaudé, on l'a tellement malmené, et qu'on entend les gens dire n'importe quoi sur ce mot-là. Ah, le logos, Jésus est le logos de Dieu. Ça veut dire que le logos, c'est le principe même du devenir. La parole est là, mais rien ne peut se faire. La parole est Dieu, mais rien ne peut se faire. Il faut que le logos apparaisse. Dieu incarné dans le Fils. Dieu incarné dans le Fils. Pas de l'eau, s'il vous plaît. Le monde est là. Plutôt, L'univers est là. Dieu a créé l'univers. Il est Dieu. La parole est avec lui. Il a besoin du Logos, le Fils. Logos, c'est le principe même du devenir. Car il va jouer un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos. Jésus, c'est tout un processus. Le Logos, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Logos ? En grec, le Logos est défini comme un ensemble harmonieux et ordonné, un système qui n'est pas gouverné par des lois humaines ni des lois surnaturelles. Je vais simplifier ça. Je vais d'abord expliquer, je vais simplifier ça après. Le terme cosmos a deux connotations. Il vient du mot grec cosmos avec K, qui signifie ordre, bon ordre, ou arrangement ordonné, d'où le verbe kosmein, qui signifie arranger ou orner et dérivé, transmise dans la langue française. Écoute-moi bien. La Bible dit que lorsque Dieu créa l'univers, tout était en désordre. N'est-ce pas? Aïe, 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 aïe. Jésus! Non, je ne peux plus m'amuser avec ce nom-là n'importe comment. Non. Jésus, c'est tout un cataclysme. Le Logos, c'est lui que Dieu va utiliser pour commencer un travail. Et il va le rendre responsable de ce travail. C'est Jésus qui va soutenir tout l'univers par sa parole. C'est Jésus qui détermine au soleil la distance qui doit le séparer de la terre, parce que s'il y a seulement une petite fraction de centimètre qui dépasse, qui amène le soleil vers la terre, nous serons tous carbonisés. La distance qui sépare le soleil à la terre est mesurée de façon à ce que jamais le soleil ne transperce cette barrière pour que la vie soit possible sur terre. Qui a de cette distance-là? Jésus. Qui est cette distance-là plutôt? Jésus. Toutes les planètes que vous voyez là, les constellations, tout, qui soutient ces choses avec une droiture, respect des règles, des normes scientifiques, c'est Jésus. Ah. Qui dit à la mer, voici, tu commences par là, tu t'arrêtes par là, c'est Jésus. Qui dit à la pluie, tu tombes, mais tu t'arrêtes à tel niveau, c'est Jésus. Qui gouverne le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est Jésus. Le monde est entre ses mains. C'est pas sûr qu'on t'enseigne ça, hein, 10 fois. Parce que ça va te rendre indépendant. Et c'est ce que je veux que tu sois. Indépendant. Que tu aies ta canne à pêche, que tu aies pêché toi-même. Je ne veux pas pêcher ton poisson à toi. Je veux pêcher mon poisson à moi. Toi aussi vas pêcher ton poisson à toi. C'est pourquoi je vais t'expliquer ces choses de façon profonde que tu réalises. Jésus est le Logos de Dieu. Et le mot Logos a été pour la première fois prononcé avant même la naissance de Jésus. 600 ans avant la naissance de Jésus, il y a un juif qu'on appelle Héraclite qui a prononcé le mot Logos. Pourquoi? Parce qu'il a vu tout ce que Dieu a fait. Il dit, mais Dieu soutient toutes choses au moyen de ça. Parole. Et Dieu va faire de cette parole un humain qui va venir dans le ventre d'une femme comme un humain. C'est pourquoi Jésus, c'est le côté humain. Christ, c'est le côté divin de Jésus. Il était en même temps Dieu, en même temps homme. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un féticheur, il n'y a pas un occultiste qui soit plus puissant que Jésus. Mm. En fait, Jésus vient pour accomplir une parole qui se trouve dans ta Bible. Quelle parole? On y va dans Colossiens 1, versets 15 à 17. Jésus vient à... Ah Seigneur, je voudrais ce matin que tu sortes d'ici le cœur rempli de joie, bien-aimé. Que dit-il? Il dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. De toute la création. Donc, tout ce qui a été créé, en premier d'abord, Jésus a été créé. Rien ne lui est étranger, rien. C'est ce Jésus-là que tu pries. C'est ce Jésus-là que tu sabotes, que tu mens au nom de Jésus. Arrête! Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ah, arrêtons-nous. Il y a quoi dans les cieux? Il y a quoi dans les cieux? Soleil, lune, les étoiles, les galaxies, Mars, Jupiter, je ne sais pas comment vous appelez le nom que vous avez donné vous-même là. Tout cela a été créé comment? En... Attendez. Comprenez bien le français. Quel est le mot qu'on a mis ici là? Dites-moi le mot là. Attendez, je vais le trouver là. Ça c'est quoi? Bien-aimé, ça va te fatiguer ce matin, comme moi ça m'a fatigué. Depuis 3 jours, je suis en train de me poser des questions. Je dis, mais Seigneur, comment se fait-il qu'on lit la Bible là, on ne se rend pas compte de ces choses-là? Dieu dit dans sa parole, en Jésus, à l'intérieur de lui, a été créée toutes choses qui sont où? Dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que rien n'échappe à Jésus. Rien que ta vie, ta famille, rien n'échappe à Jésus. Qu'il vienne de nuit, qu'il vienne de jour, aie confiance en Jésus parce que rien ne lui échappe. Tout ce qui a été créé sur cette terre ou dans le ciel, ça a été créé en lui. Bon, maintenant je te pose la question. Si ça a été créé en lui, et si lui est en moi, comme dit la Bible, devenons un peu fous. Devenons un peu fous. On dit que tout ce qui est au ciel a été créé en lui. Sur la terre et au ciel. Tout est créé en lui. Lui-même dit, Christ en vous. L'espérance de la gloire. Bon, ce Christ, pour qui tout a été créé en lui, lui est en moi. Je pose la question, quel marabout va me terrasser? Quel pasteur va fermer cette église? Ah, ils sont comme ils sont forts, qui les essaye? Moi, je vais ici, je dis Seigneur, tout a été créé en toi, non? Par toi, non? Tu habites en moi. Si j'ai volé, qui est au tribunal? Si j'ai commis des délits, qui est au tribunal? Mais depuis là aussi, pas au tribunal. Quand tu as ces vérités à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui peut t'intimider? Qu'est-ce qui peut te faire peur? De quoi t'inquiètes-tu? Ce matin, bannis toutes les inquiétudes de ta vie. Laisse ça ici ce matin. Sors d'ici en paix. Alléluia! Sors d'ici en paix. Tout est sous contrôle. La Bible dit, Dieu a dit à Job, rien ne se fait sans sa volonté. Oh, Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à accepter cette vérité parce que mon entendement est limité. Seigneur, brise la glace, élargis l'espace. Je veux comprendre ce matin.
ce que tu accomplis.
Oui, c'est pour ça que je suis en train de parler ici là. Regarde, on dit bien, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui, pas en dehors, non, en lui Jésus. Donc le Jésus qui est parti sur la croix là, en lui, il y avait toute la création. Oh, bien aimé, c'est pourquoi la croix devient quelque chose d'important. Il dit, prends ta croix, viens et suis-moi. Ça veut dire que quand tu prends ta croix, tu fais rentrer Jésus à l'intérieur de toi et tu commences à marcher avec lui, comme Simon de Cyrène. Et celui qui te provoque, provoque qui? Jésus. Celui qui te maudit, maudit qui? Jésus. Celui qui te vilipende, vilipende qui? Jésus. Et toi, tu es comment? En paix, parce que tu as la croix de Christ à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Est-ce que je parle à un peuple ce matin? Il est difficile d'accepter, mais accepte le Père. Seigneur, c'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Ça m'énerve quand je vois dans quelle ignorance on nous a maintenus. Et il va plus loin. Il dit, il cite même les choses qui sont sous sa domination. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Le trône, les dignités, les dominations, les autorités. Qui? Dieu t'a dit de faire le combat contre qui? Tu as lutté contre la chair? Contre quoi? Les autorités. Contre quoi? Contre quoi encore? Eh Seigneur, tu te rends compte que ces forces n'ont aucun pouvoir sur toi parce que tu portes la croix de Christ. Oh, dis-moi amen, acclame ton Dieu. Tout a été créé par lui, pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il habite en toi, en toi. C'est l'espérance de la gloire. Pas en dehors, mais en toi. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu peux te lever et dire, je suis révolté? Non, lève-toi, lève-toi. Dis, je suis révolté par les mensonges du diable. Répète bien, par les mensonges du diable. Je suis révolté. Jésus habite en moi. Et en lui, tout a été créé. Alors en moi, tout a été créé aussi. Je domine sur les autorités, sur les dignités, sur les principautés, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, en moi, l'espérance de la victoire, l'espérance du changement. Ce matin, je proclame le changement dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un enseignement que j'irai vite. On va s'arrêter là. Je veux continuer. J'ai tellement de choses à vous dire. Ça m'a rendu fort, cet enseignement. J'ai dit, mais le diable est un menteur, un trompeur, un manipulateur, un voyou. J'ai dit, c'est pas moi qu'il va mettre dans son piège. Je connais mon identité. Je suis fils du Dieu vivant. Jésus, c'est mon grand frère. Ce qui est en lui est en moi, au nom de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, tu as le pouvoir de dire à la chose, s'arrête maintenant. Si c'est pauvreté, dis à la pauvreté, stop maintenant. Dis-lui stop maintenant. La misère, dis-lui stop maintenant. Célibat, dis-lui stop maintenant. Tu as ce pouvoir de dire stop maintenant. Parce qu'il est en toi. Réalise cela, bien-aimé. Laisse les barrières. Acclame Dieu pour toi-même. Nous sommes dans ce siècle de tromperie où on te dit, viens délivrance. Jésus m'a déjà délivré. Ce que j'ai, c'est de prendre autorité sur ce qu'il m'a déjà donné. Même si je te fais vraiment ton compte de 1 million, si je ne te dis pas, tu peux mourir alors qu'il te fallait juste 100 000 pour sortir de la mort. C'est ça le problème des chrétiens. Dieu a déjà fait le virement dans ton compte de la délivrance. ce qui te reste à faire, c'est de prendre possession ou d'écouter ce qu'on te dit pour que tu ailles maintenant prendre ta délivrance et marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons procéder à notre... On va rester debout. Je vais prier quand même pour vous. Parce que c'est qu'un enseignement comme ça, vous serez beaucoup attaqué. Invoque le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et du témoignage de leur bouche. Commence à témoigner Jésus. Invoque le sang de Jésus. Qu'il purifie, qu'il nettoie, qu'il te couvre. Couvre-toi le sang de Jésus. Prends le micro, Makilène. Commence à proclamer. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus. Micro de Makilène, là, s'il vous plaît. L'autre micro. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.